Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural. Des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée. Reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Comment prévenir le choléra? Vous savez, plusieurs cas de choléra ont été signalés l'année dernière, notamment dans la province de l'Équateur et au Bas-Congo. D'après les spécialistes, cette maladie est essentiellement liée au manque d'hygiène. Elle s'est traduite généralement par une émission fréquente des selles liquides qui ressemblent à l'eau de riz. Alors qu'il faut pour prévenir cette maladie, on a appris d'ailleurs que cette année, et au Katanga également, à Lubumbashi particulièrement, plusieurs cas de choléra ont été signalés. Alors comment prévenir cette maladie? Docteur Mavar Kwengani est coordonnateur national de l'hygiène. Encore une fois, bonjour docteur.
Bonjour.
Alors, comment prévenir le choléra? D'abord, la première question avant d'en arriver là, pouvez-vous nous présenter cette maladie appelée choléra?
Oui, effectivement, comme vous venez de le dire d'ailleurs tout à l'heure, que le choléra c'est une maladie diarrhéique. Et où la personne qui attrape cette maladie émet des selles liquides, plus de 20 à 30 fois même par jour. Mmh. Et parfois, il s'accompagne des vomissements et d'affaiblissement pratiquement de la personne qui est touchée. Et au fait, si rien n'est fait, la mort peut s'en suivre dans quelques heures. C'est ça le choléra. Le choléra, c'est une maladie dangereuse. Mais au fait, le choléra, c'est une maladie qu'on peut également éviter, comme vous l'avez dit, dans les mesures de prévention, mais aussi qu'on peut arriver à prendre en charge et à sortir de gens, surtout ceux qui sont tombés dans les cas de choléra et ceux qui sont atteints, évidemment. Il y a des gens qui peuvent être guéris du choléra, donc être sauvés avec la prise en charge médicale.
Docteur Mavar, quelles sont les causes du choléra?
Oui, les causes de choléra sont pratiquement multiples. Quand vous regardez un peu, c'est au fait, il y a trois grandes causes qui pratiquement entraînent les gens vers la choléra. La première, c'est dû à un vibrion. Le choléra est dû à un vibrion cholérique. Et les gens attrapent soit par l'eau qui n'est pas potable, donc utilisent de l'eau potable. Deuxièmement, c'est au fait par l'assainissement, la mauvaise gestion des excrétats ou des matières fécales. Troisièmement, c'est le manque d'hygiène. C'est au fait, ce sont les trois éléments qui vont influer que les vibrions cholériques puissent persister dans la communauté et causer des dégâts.
Voilà, donc l'eau, les matières, vous avez parlé de l'eau.
Les matières fécales, les matières fécales, les selles, et nous avons parlé le manque d'hygiène des individus ou de la communauté.
Oui, mais comment expliquer le fait que les années antérieures, le choléra n'avait pas pris l'ampleur comme c'était l'année dernière et cette année aussi?
Oui, c'est vrai. Et là, il faut le reconnaître que les années passées, les gens ont eu quand même à garder certaines précautions. Et aujourd'hui, évidemment, la situation sociale au niveau de la communauté, au niveau de ménage, c'est dégradant et les moyens dont ils disposent aujourd'hui pour prévenir sont de moins en moins fruits. Et au fait, la communauté s'expose de plus en plus, au fait, par elle-même, par l'ignorance de certaines connaissances ou de certaines précautions qui devaient être prises avant. Évidemment, les gens n'arrivent plus à prendre, par exemple, le fait de se laver les mains. Et donc, les gens parfois négligent. Lorsque on est dans une communauté ou bien on vient du service, les gens négligent. Et surtout, lorsqu'on se trouve dans des zones endémiques, il y a des zones qui sont endémiques au niveau du pays, notamment dans la partie Est et les autres là, et les gens ne prennent pas tellement de précautions. Deuxièmement, c'est au fait par rapport à l'eau. Aujourd'hui, l'eau potable, quand nous regardons les statistiques que nous donne Mix, donc nous voyons qu'il y a beaucoup de provinces qui, au niveau de la partie Est, mais aussi de la partie Ouest, qui ont difficile accès à l'eau potable. Donc, au fait, il y a aussi les facteurs comme les fleuves Congo. Vous voyez, quand on n'a pas l'eau potable, on n'a pas l'hygiène au niveau de l'assainissement des bases, on n'a pas assez de latrines, on n'utilise pas les latrines. Oui. Et les gens ne se lavent pas les mains. Ce sont déjà les facteurs qui vont permettre l'éclosion, même plutôt que l'épidémie de choléra ou la maladie de choléra puisse persister au niveau de la communauté.
Alors, par rapport à l'eau, quelles sont les mesures de prévention, docteur Mava?
Oui, je voulais d'abord vous dire que, au fait, le choléra, au fait, c'est la santé qui est en train de subir les effets du choléra parce qu'au fait, c'est une maladie. Mais en fait, pour ceux qui connaissent au moins, en fait, quand nous regardons ce que je venais de dire, ce n'est pas la santé seule. La santé est en bas, est en train de subir. Mais ceux qui sont au-dessus de la santé, c'est qui? C'est au fait tous les ministères qui ont en charge la gestion des déchets, la gestion des excrétats, qui ont en charge l'alimentation, qui ont en charge les bonnes pratiques et les autres. Là, je parlerai des ministères comme les ministères de l'environnement, avec la division de l'assainissement. Il y a les ministères des transports et voies de communication. Donc, quand nous regardons un peu les gens, comment ils voyagent dans des embarcations, dans des bateaux, donc vraiment, ce sont des conditions qui sont réunies pratiquement pour une éclosion de l'épidémie de choléra. Il y a également dans les infrastructures des TPI et les autres. Aujourd'hui, au niveau de Kinshasa, on a constaté que dans les caniveaux qui sont ouverts, et on a fait des prélèvements, on constatait qu'il y a des germes de choléra. Ça veut dire les gens qui ont bronché. Et ces caniveaux qui sont ouverts ne sont pas curés. Donc, au fait, il y a des cours d'eau qui sont déjà contaminés, mais qui ne coulent pas normalement pour permettre une auto-épuration. Oui. Il y a aussi des autres ministères comme le ministère de l'Agriculture et aussi, au fait, la Régie des eaux et les systèmes nationaux d'hydraulique rurale qui sont parfois incriminés parce que ils n'apportent pas assez d'eau potable au niveau des communautés. Donc, au fait, ce sont tous ces ministères ici qui doivent s'occuper normalement du problème de choléra. Et, au fait, on doit s'unir ensemble pour chercher comment éliminer le choléra ensemble avec tous ces ministères.
Bien. Alors, je disais tout à l'heure que par rapport à l'eau, vous avez cité trois éléments qui sont à la base du choléra. L'eau, le manque d'hygiène et les matières fécales qui ne sont pas bien gérées. Alors, par rapport à l'eau d'abord, quelles sont les mesures préventives?
Oui, par rapport à l'eau, d'abord, il faut que la communauté utilise l'eau potable. Où est-ce qu'on peut trouver de l'eau potable? De l'eau potable, c'est l'eau qui est donnée par la régie. La Régie des eaux également a l'obligation constitutionnelle de donner à la population de l'eau potable. Et c'est ce qu'elle fait. Si elle n'a pas les éléments de potabilité de l'eau, il n'a pas de désinfectant, évidemment, à ce moment-là, c'est elle qui doit prendre la charge pour dire à la communauté que nous n'avons pas des intrants pour purifier l'eau ou pour désinfecter l'eau, qu'il faudrait alors à la communauté débouillir l'eau. Donc, la première chose, c'est au fait l'eau, la Régie des eaux, ou l'eau des régies qui sont données par nos régies, qui doit être de l'eau potable. Deuxièmement, par rapport à l'eau, c'est au fait l'eau des puits. Quand nous regardons aujourd'hui, plus de 45% ou plus de 65% des communautés vivent dans les milieux ruraux et n'utilisent pas l'eau de la Régie des eaux, évidemment. Ils utilisent l'eau des cours d'eau, l'eau des puits ou l'eau de source. Évidemment, c'est là aussi qui est un problème. Et là, c'est le Service national hydraulique rural qui est le patron de cette charge-là à donner au niveau de la population en milieu rural de l'eau potable. Et à ce moment-là, il faut soit aménager des sources, surtout dans les zones ou dans les villages qui sont le village atteint par le choléra, là, il faut aménager les sources ou qu'on puisse faire un puits d'eau. À part ça, évidemment, il y a les autres moyens de purification de l'eau, tout ça qu'on peut utiliser, purifier l'eau pour permettre à la population, au ménage, d'avoir un peu l'eau potable. Mais aussi, régulièrement, la communauté doit aller à bouillir l'eau pour permettre d'avoir de l'eau potable.
Bien, ce sont là les mesures à prendre par rapport à l'eau. Alors, vous avez également cité les manques d'hygiène comme étant l'un des facteurs qui favorise le choléra. Alors, quelles sont les mesures à prendre par rapport à l'hygiène?
Oui, l'hygiène, c'est vrai. C'est au fait, quand nous regardons l'hygiène, c'est au fait tout ce qui lie les comportements de l'homme. C'est au fait, c'est là, l'homme quitte sa maison, il va au bureau, du bureau, il va au fait dans son service et il rentre. Les mesures d'hygiène sont en fait les mesures qui sont les mesures primordial. C'est au fait lorsque un homme est déjà prévenu sur quelque chose qu'il prend des précautions. Là, les mesures sont au fait la sensibilisation qu'on doit faire au niveau de la communauté. La sensibilisation doit être faite non pas seulement par l'agent de santé, mais aussi de proche en proche. Demander aux gens de se laver régulièrement les mains. En se lavant les mains, régulièrement les mains, on peut arriver jusqu'à 45% éviter les maladies qui sont liées aux mains sales. Donc la transmission peut se faire par les mains. Là, on peut les éviter. Mmh. Donc les lavages des mains constituent des moments qui sont vraiment des moments pratiques et moins chers pour les communautés. Également dans les structures de soins. Quand nous regardons au niveau des hôpitaux,
oui,
ce qui sauve les médecins et les personnels médicaux, c'est au fait les précautions universelles, c'est les lavages des mains, c'est le port de blouse. Donc à chaque fois qu'il y a une intervention où il manipule un malade, le médecin ou le personnel soignant doit normalement revenir dans son cabinet ou à partir de son cabinet, se laver les mains avec de l'eau courante, l'eau qui coule et avec du savon. Évidemment, quand on est dans des hôpitaux en milieu urbain, évidemment, quand on est en milieu rural, on n'a pas de savon, on peut se servir de la cendre.
Voilà. Donc, il faut se laver régulièrement les mains et surtout que dans nos milieux, les gens ont l'habitude de se saluer par des poignées de main. Il n'est pas toujours évident que c'est tout le monde qui se lave les mains, docteur.
Oui, au fait, c'est tout le monde qui se lave les mains. Mais comment est-ce qu'il se lave les mains? Il faut se laver correctement les mains et au niveau des espaces interdigitaux, il faut vraiment que l'individu se lave correctement les mains pendant plus de 20 secondes à se laver, à se frotter les mains pour permettre à dégager tout ce qui est résidu des matières. Vous savez, quand on va parfois à celle où on est censé sur, souvent quand on regarde, y a, par inadvertance ou autre, il y a des gens qui se retrouvent avec des matières fécales au niveau de mains. Et quand on sort des sanitaires comme ça, on vient, on salue les gens, évidemment sans se laver les mains, on distribue tout ce qu'il y a comme maladie. Vous savez que pour les choléra, par exemple, ce qui se manifeste, c'est peut-être les 20% ou les 10%. Le reste, on a les germes sous forme atypique, donc au fait, ça ne se transmet pas, ça, l'individu ne manifeste pas. C'est lorsqu'il va retrouver une personne qui a aussi des conditions précaires, à ce moment-là, que le choléra peut se manifester chez la personne. Donc, au fait, quelqu'un peut sortir des sanitaires et venir et saluer les gens qui sont là, aller les saluer, les embrasser, c'est la première fois qu'on se voit, tout ça, on les salue, mais également aussi on partage ce qu'on a dans les selles comme le choléra et les autres germes. Mmh. Donc, au fait, le lavage des mains, c'est des pratiques qui sont très importante à promouvoir, non seulement par les agents de santé, mais également par tout le monde.
Bien, comment prévenir le choléra? Le docteur Mava Kwangani, coordonnateur national de l'hygiène, est l'invité d'Okapi Service. Deux auditeurs en ligne, Mave Kisambika de Kananga et Guy Lusambo, nous appellent de Gemena.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Comment prévenir le choléra? Mave, vous êtes à Kananga, bonjour. Mave, bonjour.
Merci.
On vous écoute.
D'accord, merci. J'ai trois questions à poser à notre invité. La première, c'est de savoir à quelle tranche d'âge le choléra est censé intensifier sa gravité d'infection sur le corps d'une personne. Et la deuxième question, y a-t-il de mécanismes médicamenteux pour prévenir contre les choléra? Et la troisième question, quels sont les symptômes que l'on peut observer à l'œil nu pour voir et constater qu'une personne est déjà atteinte des choléra? Voilà les trois questions. Je vous remercie.
Merci. Guy Lusambo de Gemena, bonjour.
Bonjour, je voulais vous appeler Guy Lusambo.
Guy Lusambo, on vous écoute.
Bon, et ma préoccupation, la première est par rapport au diarrhée due au choléra par rapport aux autres maladies diarrhées. Comment on peut le différencier? Et puis, je vais demander à la vitesse que la promiscuité peut-il favoriser la contamination du choléra? Et puis, la troisième est par rapport au diagnostic. Comment on peut poser le diagnostic du choléra?
Comment on peut, pardon?
Comment on peut poser le diagnostic paraclinique de choléra?
Ok, docteur Mava.
Merci beaucoup. Merci pour les auditeurs de la radio Okapi. Et la première, c'est en fait la tranche d'âge qui s'intensifie, qui a le choléra, tout ça. En fait, on a constaté que le choléra, c'est pratiquement à tout âge. Tout âge, il y a des enfants qui sont atteints par le choléra. C'est en fait la transmission se fait par les mains. La transmission des mains, les matières fécales aux mains, tout ça. Donc, en fait, au niveau de la communauté, les parents peuvent transmettre à son enfant. L'enfant également peut aussi transmettre aux parents, les parents à d'autres parents, les adultes ou d'autres adultes. C'est au fait, à tout âge, il n'y a pas d'âge vraiment qui est spécifique au choléra. Nous avons constaté dans les centres qu'il y a des grandes personnes et qu'il y a également des jeunes et des enfants qui sont atteints dans le choléra, qui sont atteints par le choléra. Les mécanismes médicamentés pour prévenir le choléra, évidemment, là il faut dire aux collègues qu'il aura à prendre les médicaments tous les jours pour prévenir contre le choléra. Or, vous savez que les médicaments, ce sont des produits qui sont préparés uniquement pour prendre en cas de maladie. Donc, lorsque la maladie survient, on ne peut pas prévenir le choléra pour prendre tout ça. Bon, certaines personnes parlent de vaccins, mais en fait, le vaccin n'est pas d'abord dans notre politique. Et puis, s'il était, il faut prendre toutes les deux années pour faire le vaccin, la vaccination contre le choléra, ce qui sera difficile d'abord au niveau de cette population, parce qu'il faudrait que la population soit circonscrite et puis bénéficier de tout ça, mais pas être beaucoup plus en contact avec l'extérieur, ce qui sera difficile. Mm-hmm. Donc, au fait, au niveau du pays, on a dit que ce n'est pas possible qu'on puisse promouvoir, par exemple, la vaccination. Donc, les médicaments sont faits, ne sont pas faits pour les mesures préventives. Les mesures préventives, ce sont les mesures de l'hygiène et des précautions universelles qu'il faudrait vraiment prendre.
Bien,
si
docteur.
Les médicaments, là, on peut prendre. En ce qui concerne les symptômes.
Docteur Mavard, avant de poursuivre, nous allons accueillir encore deux auditeurs, Jerry Mido de Bandonouville et Adrien Amouyete de Lubumbashi. Jerry, bonjour.
Oui, bonjour à l'invité.
Votre question rapidement.
Bon, j'ai trois séries de questions à poser à l'invité. La première est celle-ci. Bon, quels sont les médicaments essentiels que quelqu'un a tâté de la choléra qu'on peut les donner vite pour avant d'aller à l'hôpital? Bon, la seconde question, je peux demander à l'invité, est-ce que quelqu'un qui souffre du choléra fait beaucoup de caca par rapport à un homme qui souffre bien? Bon, quels sont ces effets-là qui fait que quelqu'un qui souffre du choléra fait beaucoup de caca à une personne qui souffre bien et qui mange bien? La troisième série de questions, je peux demander à l'invité.
Oui. On vous écoute, Jerry. Dommage, sûrement, il n'est plus en ligne. Il y a un problème de liaison. Adrien Amouyete de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour, notre invité.
Bonjour.
En vous écoutant.
Oui, aujourd'hui, je voudrais savoir. Premièrement, d'abord, moi, je tiens à remarquer quelque chose. Par exemple, dans des villages, il n'y a pas une bonne hygiène. Mais, donc, ils ne s'occupent même pas d'une bonne hygiène. Ils ne s'occupent de rien. Mais ils sont en train de bien vivre et il n'y a jamais eu de choléra. Alors, moi, ma question est que j'aimerais demander à notre docteur, est-ce que cette maladie des mains sales a toujours eu des périodes que cette année, comme 2013, il y a cette maladie partout et peut-être à 2014, il n'y aura pas ça. C'est ça ma question, si ça a une période.
Bien, merci Adrienne. Docteur Mavard, on était à Mavek Isambika qui a demandé quels sont les symptômes.
Les symptômes, il a parlé des symptômes et vous l'avez d'ailleurs rappelé au début de l'émission en disant au fait c'est une maladie diarrhéique. En fait, ce sont les diarrhées plus de 20 à 30 fois par jour. Donc vous voyez un peu les diarrhées, ce sont des diarrhées liquidiennes, l'eau des riz. On ne sait même pas les arrêter. Et souvent ce qu'on fait, c'est mettre les malades sur un grabat et faire un trou au milieu, laisser que les germes coulent, parce que c'est la diarrhée là, c'est au fait les germes qui sont en train de couler, de partir, et ils vont entraîner, c'est au fait de l'eau qui se trouve dans le corps de l'individu, au niveau des intestins et au niveau de tout le corps, ça va amener, ce qui va faire qu'il y a une déshydratation qui va s'en suivre, une déshydratation profonde qui fera que l'individu peut par la suite perdre l'équilibre, perdre la connaissance et la mort en tout cas s'ensuit. Lorsqu'il n'y a aucune prise en charge, la mort s'ensuit. Dans moins de 24 heures, la personne décède.
Ouais, d'ailleurs, Jerry de Bandundu de me poser la question de savoir pourquoi la personne qui souffre de choléra fait beaucoup de soldes plus que une personne bien portante.
Oui, c'est ça. En fait, il y a ce que nous appelons des organismes qui vont attaquer les tubes, qui vont attaquer l'intestin grêle. Donc, lorsqu'ils attaquent l'intestin grêle, à ce moment-là, ils vont sécréter des toxines et ces toxines vont favoriser la sécrétion de l'eau et de toutes les matières là. Donc, il y aura augmentation du péristaltisme, et c'est tout. La personne va commencer à faire les selles régulièrement. Donc, ça va entraîner pratiquement la toxine qui est sécrétée là-bas, va entraîner l'appel de l'eau et de tout. Vous verrez la personne faire des diarrhées vraiment à celle qui se fait. Ça, pratiquement, les mécanismes, Monsieur Géry.
Mmh.
En ce qui concerne notre ami de Guémena,
oui.
La différence entre la diarrhée du choléra et les autres diarrhées, évidemment, bon, sans compter la fièvre, parce que là, il n'y a pas de fièvre, c'est dans le contexte, il n'y a pas de fièvre, mais quand vous voyez une personne qui fait des selles profuses, vous l'avez bien dit, jeudi, avec des selles avec l'aspect de l'eau de riz, et puis des diarrhées qui ne se terminent pas, au fait des diarrhées continuelles. À ce moment-là, il faut déjà l'amener à l'hôpital, et c'est au niveau des centres de santé qu'il faudrait... on va faire les diagnostics. Là, on vient au diagnostic. Les diagnostics se fait par l'examen de sel. On va faire l'examen de sel, et puis on va constater que, au fait... il y a les choléra. On peut prélever, l'examen des selles, on peut prélever ou faire la coproculture. Donc, on voit et on regarde et on cherche et puis on trouve les germes du choléra et on instaure. Mais déjà, lorsque il est à l'hôpital, on va prendre des précautions, on va les traiter. Et, comme faisant, par exemple, le choléra, on fait une suspicion et on place tout l'arsenal du choléra avec l'eau, donc on le réhydrate rapidement,
oui.
On arrive... pas à arrêter les diarrhées. On n'arrête pas la diarrhée, mais on va donner les médicaments pour désinfecter les tubes digestifs, que les germes qui sont là-bas, qui provoquent la diarrhée, que ces germes-là soient détruits, et la diarrhée, laisser la diarrhée continuer jusqu'à ce que ça va diminuer, la fréquence va diminuer jusqu'à ce que la personne va se rétablir.
Mmh.
Donc...
voilà. Et Guy de Guémena a encore posé la question de savoir si la promiscuité peut favoriser le choléra.
Oui. Bien sûr, la promiscuité. C'est en fait ce que nous avons parlé de l'assainissement. L'assainissement, au fait, la promiscuité au niveau des individus et au niveau de la communauté. Quand on regarde, c'est le collègue de Guémena, quand on regarde un peu les conditions dans lesquelles les gens viennent dans des bateaux, ou dans des embarcations de fortune, là, qu'on met du tout ça.
Oui.
Donc, vous voyez, les gens sont entassés les uns à côté des autres. Et dès qu'il y a une épidémie ou bien un cas de diarrhée colérique qui se dégage, qui se déclenche là-bas, pratiquement tous les bateaux, on enterre les gens, chemin faisant, les gens font des diarrhées et meurent aussitôt. Donc, en fait, vous voyez un peu ces conditions-là, c'est en fait des conditions de promiscuité vraiment qu'on trouve. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi dans des maisons. Aujourd'hui, il y a des gens qui occupent dans une même chambre 5, 6 personnes, 7 personnes, des grandes personnes, parfois 10, dans des petits... Là, s'il y a une personne déjà qui attrape le choléra, évidemment... Vous voyez, les diarrhées au niveau de linge, au niveau du lit, et puis l'autre, les mains, la manipulation, ça sera vraiment catastrophique pour de tels ménages. Vous voyez que il y a une personne qui est atteinte du choléra là-bas, il y a une autre qu'on amène pour la même communauté ou bien pour la même maison. Donc, en fait, ce sont des cas. La promiscuité intervient pour beaucoup dans favorise la contamination de les diagnostics, nous avons parlé, c'est au fait par la coproculture, on fait les examens qu'on les fait ici sur place, au pays,
voilà.
L'INRD s'en charge,
oui.
Et les autres nous appuient pour mettre en place, pour faire les diagnostics du choléra.
Bien, docteur Géry de Bandundu a posé une autre question. Il dit quels sont les médicaments essentiels à donner à la personne malade avant de l'acheminer à l'hôpital?
Oui, c'est-à-dire que lorsqu'on constate quelqu'un qui est la première chose à faire, la personne, là, quand il ne vomit pas, il faut lui donner de l'eau. Mais ce que nous conseillons, ce n'est pas au fait qu'il faut commencer à traiter sur place. Parce qu'au fait, les diagnostics différentiels pour connaître tel ou tel, on ne le sait pas. Ce qui aurait été facile de dire, par exemple, quand il fait la diarrhée, il faut donner l'antidiarrhée. Non. Là, il ne faut jamais oser de donner un antidiarrhée parce que quand vous bloquez les germes dans les ventres, les germes vont faire quoi? Ils vont perforer, ils vont causer des dégâts impossibles dans les ventres et la personne risque de mourir. Donc, laissez la personne faire les selles. Dans la mesure des possibilités, il faut les faire boire de l'eau potable alors. À ce moment-là, d'urgence, et vous prenez cette précaution. Lorsqu'on est dans un petit centre de santé, dès que nous demandons aux collègues des autres centres de santé, lorsqu'il y a un cas pareil qui arrive, il faut, la première chose, placer un abord veineux. Un abord veineux, c'est-à-dire mettre, placer une petite perfusion et transférer les malades directement dans un centre qui peut les prendre en charge. Faire couler à flot et les transférer. Donc, au fait, les mesures, les médicaments, évidemment, des antibiotiques qu'on donne. Mais là, vraiment, il faut être... Moi, je suis médecin, je ne voudrais pas conseiller l'utilisation abusive des médicaments parce que je connais au moins les effets secondaires et puis les complications. Mmh. Donc, quand vous donnez un médicament, il faut savoir de quoi il s'agit. Donc, la première chose, au fait, vous pouvez donner le SRO, le sérum oral. Si la personne, si on est dans un petit centre qui est à côté, on place l'abord veineux, on met une perfusion et directement on amène la personne au centre de santé.
Bien. Une autre question, c'est celle d'Adrienne. Avant de reprendre à Adrienne, on va accueillir un autre auditeur, Songolo, qui pendait depuis Kindu. Bonjour.
Bonjour. Bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Oui, voilà, votre question.
Oui, j'ai deux petites questions à poser à notre invité.
Oui.
La première question, quand quelqu'un est en train de développer le choléra, il peut faire combien d'heures avant qu'il aille à l'hôpital pour recevoir les soins médicaux? Et la deuxième question, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Quand quelqu'un est en train de faire la diarrhée qui est due au choléra, comment l'eau qui compose, qui constitue le corps humain, sorte au niveau de l'intestin et la personne est devenue déshydratée? Comment cela se fait?
Bien, merci. Docteur Omava.
Merci. Je prends d'abord Adrienne de Lubumbashi, qui
oui.
a posé une belle question. Il dit, mais dans nos villages, il voit que les conditions d'hygiène ne sont pas tellement appropriées et pourtant, il n'y a pas de choléra. Évidemment, les gens du village, vous le savez, ce sont les gens qui, en tout cas, ils ne sont pas complètement délaissés. Hein. Il n'y a pas de grande promiscuité au niveau du village. Ils savent au moins certaines règles d'hygiène et d'assainissement.
Oui.
Au niveau du village, normalement, il y a des villages qui ont... chaque maison a sa toilette. Donc, quelqu'un va déféquer dans sa toilette. Là, déjà, lorsqu'il y a une personne qui a les germes de choléra, il va déposer dans sa toilette. Et ce n'est pas souvent ce qui se fait dans les agglomérations, dans les villes, ou par exemple dans nos villes et dans nos cités. Là, les gens vont dans nos toilettes, mais les toilettes sont branchées directement dans les caniveaux ouverts au public ou bien sur l'eau qui coule sur la rivière dans les environs. Donc,
oui.
on contamine l'environnement. Mais dans les villages, donc là, les selles sont pratiquement emprisonnées dans les sanitaires. Et aussi, lorsque on a des toilettes hygiéniques au niveau des villages, souvent ce qu'on a, avec il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de mouches, et souvent, ils prennent des précautions. À ce moment-là, il est difficile aux germes du choléra de quitter là où il est emprisonné dans les selles pour venir chez l'individu, se poser sur les repas ou bien qu'il puisse être contaminé.
Alors,
à part les toilettes, c'est aussi l'eau. Évidemment, les gens du village savent que, en fait, les sources du village sont des sources qui ne sont pas tellement protégées, mais en fait, ce sont des sources qui sont un peu stabilisées. Donc, s'il n'y a pas un facteur qui perturbe Au fait, cette source reste comme ça. Et s'il est un peu stabilisé, les communautés utilisent, il n'y a pas tellement de dégâts. Et ce n'est pas comme chez nous. Chez nous, par exemple, à Lubumbashi ou à Kinshasa, dès que la régie des eaux cesse d'approvisionner en eau avec tout ce qu'il y a comme contaminant des affluents directement, au fait, c'est toute une communauté qui est déjà emportée. Donc là, c'est un facteur. Et aujourd'hui, on est en train de faire la promotion du village assaini, donc au fait un village qui a pratiquement toutes les conditions d'hygiène et d'assainissement, où les gens connaissent les pratiques d'hygiène et d'assainissement et utilisent de l'eau potable, l'eau fournie soit par les SNHR, soit par un autre service de l'État, mais sous contrôle de SNHR.
Bien.
Donc,
docteur Mavar,
voilà un peu pour la collecte.
Oui.
Il a parlé en 2014 s'il y aura encore des cas de choléra. Bon,
elle,
on est
elle
en train
dit,
de faire un effort.
Docteur Mavar,
oui.
Y a-t-il des périodes où la maladie prend plus de l'ampleur ou pas? Elle a cité par exemple 2014. D'après elle, il y a des moments où on sent que la maladie n'est pas là. Après, ça prend de l'ampleur. Après, ça disparaît. Elle veut savoir s'il y a des périodes précises où la maladie prend de l'ampleur.
Oui, au fait, les périodes... Bon, regardez, au fait, ce sont les maladies qui sont attachées aux matières fécales, qui sont attachés et liés à l'eau et à l'assainissement. Mais regardez, quelles sont les périodes de l'année où les conditions d'assainissement, des bases et les conditions de l'eau sont dégradées. C'est au fait la période où il y a beaucoup de pluie. Et lorsqu'il y a les périodes pluvieuses, c'est là où les matières fécales, les latrines et les toilettes sont remplies, jetées pratiquement dans le courant d'eau. C'est là où les gens quittent et vont chercher à quoi survivre les longs, par exemple, à Kinshasa, les longs du fleuve, alors que les longs du fleuve s'est contaminé déjà par les déversoirs qui est ici en Dolo. C'est ça que nous avons demandé à l'autorité, vraiment d'arriver à fermer ces déversoirs-là. On ne peut pas comprendre qu'on est dans une ville où il y a le choléra et qu'on puisse récolter des matières fécales où il y a des germes de choléra qu'on puisse déverser en Dolo pour faire exposer toutes les populations riveraines et les populations tout autour. C'est pour cela que, au fait, les choléras, quand vous regardez dans les communes comme les communes de Kingabwa, les autres là, ça devient récurrent et les gens, à partir de Kingabwa, contractent les maladies pour les faire, par exemple, à Kikimi ailleurs. Donc, au fait, ce sont les conditions défavorables de l'année, avec les pluies, les autres, les conditions d'assainissement qui ne sont pas correctes et qui surviennent. On est obligé de faire avec. Mais là, ce qu'il faut, évidemment, c'est au fait réunir tous les ministères qui sont concernés et ensemble qu'on puisse lutter pour éliminer le choléra. On l'a déjà fait dans plusieurs pays.
Oui.
Et nous avons la foi que, avec le plan stratégique multisectoriel d'élimination du choléra qui est en train d'être mis en place par le ministère de la Santé et avec l'appui de tous les autres collègues des autres ministères, nous allons arriver à éliminer les choléra.
Bien, on va terminer avec la question de Songolo de Kindu. Il dit, après combien de temps il faut acheminer le malade à l'hôpital et comment expliquer le fait que l'eau coule, l'eau qui est dans le corps humain coule au travers des diarrhées jusqu'à la déshydratation?
Oui, et combien de temps il faut amener la personne à l'hôpital? Il faut amener la personne à l'hôpital au moment où vous avez constaté qu'il a commencé à faire des diarrhées et des diarrhées profuses. Il ne faut pas donner les médicaments pour arrêter la diarrhée, parce qu'il y a des germes. Pour tout cas de diarrhée, amenez à l'hôpital. Et dès qu'on arrive à l'hôpital, on va faire des examens. Si ce sont des diarrhées simples ou bien des diarrhées toxiques, alimentaires et les autres là, bon, les collègues, on va donner les médicaments, on va donner tous, on va les prendre en charge, il va partir. Si c'est le cas de choléra, à ce moment-là, la personne restera au niveau des centres de santé, il sera pris en charge par les centres de santé. Les diarrhées du choléra, évidemment, nous avons parlé tout à l'heure, c'est au fait, lorsqu'on ingère les sels et les autres là, avec des aliments contaminés, évidemment, les aliments vont jusqu'au niveau du tube digestif, au niveau de l'estomac, de l'intestin, tout ça. C'est au fait à ce niveau-là que les germes se multiplient. Et lorsque les germes se multiplient, ils vont sécréter des toxines, ils vont sécréter des produits qui vont faire que ces produits-là vont entraîner l'érosion et aussi appeler l'eau. au fait, ça va appeler l'eau du corps, de telle façon que lorsque il va appeler l'eau au niveau du corps, au niveau des autres parties, au niveau de l'intestin, de proche en proche, en fait, l'eau va être drainée du corps, du milieu, d'abord au niveau extracellulaire, il va ramener jusqu'au niveau du tube digestif. À ce moment-là, la personne va commencer à faire les diarrhées. Et comme les germes là sera déjà plus proche des sphincters, à ce moment-là, il va également abîmer les sphincters, les diarrhées, l'eau va commencer à couler sans effort, il ne sera même pas arrêté. Et de proche en proche, parce que l'eau quitte les milieux extérieurs, au fait, les milieux intracellulaires également va sentir que au niveau extracellulaire, il n'y a pas d'eau et l'intracellulaire va favoriser de donner de l'eau vers l'extracellulaire et l'eau va quitter les milieux intra vers les milieux extracellulaires et va entraîner ainsi une déshydratation, un manque d'eau au niveau extracellulaire et aussi au niveau intracellulaire.
Bien.
Et en moins de temps, c'est ça qui emporte pratiquement l'individu.
Bien, docteur Mavar Kouengani, on est arrivé à la fin de cet entretien. On rappelle que pour prévenir le choléra, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut se laver les mains régulièrement, purifier l'eau et maintenir l'hygiène.
Voilà. Oui, je dis. C'est au fait ça.
C'est
mais aussi, aussi tous les autres ministères qui sont concernés, l'environnement, l'agriculture, les SNHR, les transports et voies de communication doivent
nous
aider également à mettre en place des mesures appropriées pour qu'on élimine ensemble les choléras.
Docteur Mavar Kouengani, coordonnateur national de l'hygiène, merci.
Merci beaucoup.